Lecture du livre du prophète Malachi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour des anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareilles conditions. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. » Et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Les enfants du primaire sont attendus par le Père Jean-Christophe pour le temps de l'homélie. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à cette fête qui achève le cycle de Noël. La présentation de Jésus au temple et la purification de sa mère Marie. Cette fête a été choisie par le pape Jean-Paul II comme journée mondiale de la vie consacrée pour toute l'Église en 1997. Il disait: il est bon de remercier le Seigneur pour le don de ses formes de vie chrétienne. Pour nous, il est continuellement bon de découvrir plus avant ce qu'est la vie consacrée. Et il nous est profitable de découvrir que le premier consacré est Jésus qui a vécu en ce monde. Essayons donc de discerner quelques éléments en ce jour de fête. Tout d'abord, regardons cette fête qui s'inscrit dans la temporalité de la naissance du fils premier-né d'une famille juive. Saint Luc nous dit: quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Et Saint Luc cite le livre du Lévitique: tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Cette loi religieuse est commune à toute famille juive, et en cela, rien ne différencie Marie, Joseph et Jésus des autres familles. Si la pauvreté de Marie et Joseph est soulignée par le fait qu'ils offrent le sacrifice de 2 petites colombes, ils ne sont pas mis en valeur davantage que les autres familles. La purification de la mère, qui n'est pas nécessaire en l'occurrence puisque Marie est conçue sans le péché originel, s'accomplit dans le laps de temps réglementaire. Tout d'abord, 7 jours à cause des saignements de la naissance, puis le 8e jour a eu lieu la circoncision que nous avons fêtée pendant le temps de Noël, puis 33 jours d'impureté correspondant à un cycle féminin. L'humilité de Marie est si grande qu'elle accepte de vivre selon cette loi sans se mettre au-dessus des autres femmes. Par contre, Marie et Joseph connaissent l'origine divine de l'enfant, et pourtant, ils viennent le racheter comme tout premier-né, en souvenir de la sortie d'Égypte et de la mort des premiers-nés des Égyptiens due à l'endurcissement du cœur de Pharaon. Et dans cette entrée au temple de Jérusalem, un événement divin se produit. Cet événement annoncé par la première lecture, le livre de Michée, qui disait « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Effectivement, lorsque Marie, Joseph et Jésus entrent dans le temple, la promesse s'accomplit et le psaume se réalise en plénitude. « Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Effectivement, en ce jour, c'est bien le Seigneur de gloire que le vieillard Siméon attendait dans la prière et l'ajustement à Dieu. Il peut ainsi dire en vérité, en prenant l'enfant Jésus dans ses bras, « Mes yeux ont vu le salut que toi, Seigneur, tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » En ce jour de la présentation de Jésus au temple, se réalise l'accomplissement de toute l'attente du peuple d'Israël. Enfin, le Messie vient dans sa demeure, demeure bâtie par Salomon pour purifier et présenter les sacrifices en vue d'obtenir la conciliation avec Dieu. Mais en ce jour de la purification de Marie et la présentation de Jésus, la véritable offrande est là. Elle réparera dans quelques années les offenses faites au Père Créateur pour toujours. En ce jour-là, la porte du ciel s'entr'ouvre, car le Fils unique franchit le seuil de ce temple par son humanité, avant que, 33 ans plus tard, il s'avance lui-même dans ce temple, supprimant le mur de la haine, comme le dira la lettre aux Hébreux. Il sera à lui-même le prêtre, l'autel du temple et la victime. Ce sera le sacrifice de purification par le don de sa vie sur la croix pour l'humanité entière. La manifestation du Fils unique entré dans le temple se poursuit ensuite dans une vie ordinaire à Nazareth. La lumière du monde va grandir et se fortifier en son humanité jusqu'au jour où, Jésus prendra résolument le chemin vers Jérusalem avec ses disciples pour enlever les péchés du monde. Jésus, après son sacrifice et sa résurrection, promettra aux disciples l'Esprit Saint qui viendra illuminer leur âme et leur cœur pour qu'à leur tour, ils apportent cette lumière dans le monde. C'est pourquoi cette fête des Lumières est célébrée en ce jour et nous rappelle, avec nos cierges allumés, que nous avons été baptisés. Nous avons reçu cette lumière du cierge pascal afin de devenir ce que nous sommes devenus par le baptême. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple dans lequel la lumière du monde habite. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce baptême se déploie par tous les états de vie qui se présentent à nous. Cependant, le pape Jean-Paul II a voulu voir dans cette fête une particularité de la consécration baptismale et dire avec Jésus, des hommes et des femmes se consacrent eux-mêmes à Dieu par leur volonté. Eh bien, faisons de ce jour une fête pour la vie consacrée. C'est pourquoi il écrivait dans ce premier message de la vie consacrée. La présentation de Jésus au temple est une éloquente icône du don total de soi pour tous ceux qui ont été appelés à reproduire dans l'Église et dans le monde par les conseils évangéliques les traits caractéristiques de Jésus chaste, pauvre et obéissant. Il s'agit donc pour nous de relire la vie de Jésus avec cette possibilité de le suivre particulièrement en choisissant de ne vivre qu'avec lui, que de lui et que pour lui. Les différentes formes de vie consacrées dans l'Église veulent rendre visible la forme de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur terre, écrit encore le pape Jean-Paul II. L'entrée dans le temple de Jérusalem est le signe de la confiance faite au Père, source de l'amour qui habite dans les cœurs. Cette relation particulière entre le Fils et le Père du ciel a été si intense, si puissante que le vieillard Siméon, lorsque il reçoit cet enfant dans ses bras, lorsque la prophétesse Anne voit cet enfant, eh bien, il mesure, il découvre que Dieu est là présent, que la lumière est là, alors que Jésus n'a encore fait aucun miracle, n'a prononcé aucune parole. Dieu est là, il est reconnu à travers son corps. Car la présence de l'amour infini de la Sainte Trinité dans une humanité rayonne, touche tous ceux et celles qui l'approchent. Ainsi en est-il de tous les baptisés que nous sommes, ainsi en est-il de manière plus particulière pour les consacrés qui, expérimentant l'amour divin dans leur âme par leur baptême, se trouvent attirés vers Jésus et veulent vivre de lui seul. La chasteté consacrée est donc d'abord l'expérience de l'amour unique et suffisant de Dieu pour combler l'âme et le cœur humain. Si donc cet amour unique est la richesse de la miséricorde divine, alors l'on saisit que l'on puisse n'avoir d'autre richesse que Dieu, et ainsi de s'offrir dans la pauvreté d'une vie incertaine au plan matériel, mais riche de l'amour, qui conduit à se donner comme Jésus pour le peuple de Dieu. La réalisation de ces deux dimensions que sont la chasteté pour le royaume et la pauvreté à la suite de Jésus ne peuvent s'accomplir en plénitude que dans l'imitation de Jésus qui dit « Je suis venu faire, ô Père, ta volonté, voici mon corps. » Le vœu d'obéissance rend la personne disponible pour agir par amour et n'avoir d'autre possession que l'offrande de soi. Si cette obéissance est rendue manifeste par la médiation des responsables de la vie consacrée, elle n'en demeure pas moins une confiance absolue en Dieu le Père. Jésus, ayant vécu cette confiance de manière radicale, nous montre qu'il est beau de vouloir le suivre et accomplir comme lui cette offrande. Saint Jean-Paul II nous dit donc, « Il est beau de remercier et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. » C'est donc ce que nous voulons vivre maintenant dans cette démarche que les différentes formes de vie consacrée vont réaliser. Nous allons venir devant l'autel, rénover les engagements des uns et des autres pour redire « Seigneur, nous t'appartenons et nous voulons être cette lumière au milieu du monde à travers nos charismes particuliers. » Il est donc bon aujourd'hui de prier pour les religieux et religieuses, les laïcs consacrés dans ce monde, dans cette paroisse, afin que chacun et chacune, à leur manière, témoigne de l'amour infini du Père. Il est bon aussi de prier en ce jour pour ceux et celles que le Seigneur appelle à cette forme de vie aujourd'hui, pour que chacun résolument puisse dire « Me voici Seigneur, j'accepte de vivre cette consécration de toute ma vie. » Pour rendre vivant, comme l'écrit encore Jean-Paul II, la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu. C'est donc un jour de joie et de fête, c'est en nous confiant à Marie, qui à Nazareth a contemplé Jésus, le premier de tous les consacrés, qui a offert sa vie à Dieu le Père. Demandons à Marie, mère de Jésus, épouse de Joseph, Mère de l'Église et de chacun et chacune d'entre nous, demandons à Marie de nous aider à vivre cette consécration pour le salut du monde.